Bonjour et bienvenue à l'épisode 153 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour développer la croissance profitable de vos organisations. Comme beaucoup d'entre vous le savez, nous conseillons les entreprises et les organisations, mais nous faisons aussi de la formation pour les cadres et les dirigeants. C'est justement dans le cadre d'une de ces formations qu'un participant, directeur commercial d'une grande entreprise de distribution de produits pharmaceutiques, me demande si le tableau que je venais de présenter, un diagramme de Gantt en l'occurrence, pouvait se mettre dans une Obeyer Room. Difficile de répondre ne sachant pas ce qu'est une Obeyer Room. Or, il se trouve que l'année précédente, le conférencier invité par cette même entreprise était un spécialiste du Lean, et que le terme « obeya » signifie en japonais « grande pièce » ou « grand espace ». Nous voici donc revenus aux racines des méthodes itératives et incrémentales centrées sur le client, l'usager ou l'utilisateur. Et nous voici donc au cœur de deux questions que nous croyons importantes de traiter. La première est de parler de l'importance du management visuel, sujet que nous n'avons pas traité ni avec Véronica, avec nous jusqu'à l'épisode 56, ni avec Olivier Fichet, nos deux spécialistes du Lean, des méthodes japonaises d'excellence opérationnelle. La seconde est ce lien fait entre un diagramme de Gantt et une Obeyer Room, lien qui me rappelle une vidéo de Jeff Sutherland, à la fois sur le management visuel et sur l'âge canonique du diagramme de Gantt, dont vous trouverez la référence dans les notes de cet épisode. Pourquoi mélanger un outil de management du 19e siècle, Gantt est mort en 1919, avec des outils de management de la seconde moitié du 20e siècle et complètement appropriés par les agilistes du 21e? Sans en dire plus, je vous souhaite une excellente écoute. Deux citations pour commencer. La première est de Taishi Ono, un des pionniers du juste-à-temps et du Toyota Manufacturing System. Il nous dit ceci. « Faites de votre lieu de travail une vitrine compréhensible par tous en un coup d'œil. En termes de qualité, cela signifie que les défauts seront immédiatement visibles. En termes de quantité, cela signifie que les progrès ou les retards, mesurés par rapport au plan, sont également immédiatement visibles. Ainsi, les problèmes peuvent être découverts immédiatement et tout le monde peut mettre en place des plans d'amélioration. » La seconde est de Jeff Sutherland et tirée de cette vidéo dont je vous parlais plus tôt. Il nous dit ceci. « Comme l'a dit le poète Robert Burns, les plans les mieux conçus des souris et des hommes tournent souvent très mal et conduisent à la douleur et à la souffrance au lieu de l'espoir promis. J'ai commencé à me confronter à ce problème lorsque j'étais cadet à West Point. Nous avons connu beaucoup de douleurs et de souffrances au cours de notre formation et, la dernière année, on m'a nommé officier de formation pour la compagnie L2 parce qu'elle avait un problème de marche sur le terrain de parade. La compagnie 2 est connue sous le nom de Loose Douce, car depuis 100 ans, elle a une tradition de médiocrité et de performance bâclée. Pendant des décennies, on a essayé de les faire marcher plus longtemps, de les faire s'entraîner plus fort, mais rien n'y a fait. Alors j'ai su que je devais faire quelque chose de différent. J'ai donc décidé de ne pas leur dire ce qu'ils devaient faire, mais plutôt d'épingler sur le tableau d'affichage, le soir, des notes en couleur décrivant exactement leur performance sur le terrain de parade et ce qu'ils devaient faire pour s'améliorer. Charlie doit cesser de planter son épée dans le sol au milieu d'un défilé. La troisième section doit prendre le virage de manière synchronisée. Le commandant doit énoncer ses ordres avec précision et au bon moment. À la stupéfaction générale, ils sont devenus, en 3 mois, la meilleure compagnie de la promotion. Or, il se trouve que le général MacArthur est mort à ce moment-là et avait spécifié qu'il devait y avoir une compagnie de cadets marchant derrière son cercueil lors de son enterrement. Et la L2 a été choisie. Ainsi, passer de la dernière place à la mise au tombeau de l'un de nos plus grands généraux peut être décrit comme un long parcours réalisé en très peu de temps. Fin de la citation. Donc, à l'écoute de ces deux citations-là, on peut dire que l'humain possède 5 sens et nous savons tous combien en perdre un ou plusieurs devient un handicap très important. Mais au travail, la vue, le toucher et l'ouïe peuvent être considérés comme les plus importants. Ces deux citations ont en commun deux choses. La première, c'est bien entendu l'importance que la vue joue dans notre perception d'un lieu de travail et sur ce qui est à faire et ce qui est fait. La seconde est bien entendu que l'amélioration est l'affaire de tous. Le succès de Sutherland avec sa compagnie de cadets ne tient donc pas à son autorité, mais bien à son rôle et à sa manière de l'exercer. C'est en rendant visible de toutes et tous les points réussis et ceux améliorés qu'il parvient à faire évoluer les comportements. Revenons un moment aux méthodes d'organisation du travail. Taylor, mort en 1915, 4 ans avant Gantt, et son organisation scientifique du travail tend à spécialiser chaque tâche, et ce, en réaction aux méthodes d'organisation du travail d'avant la révolution industrielle, dans le but d'améliorer rendement et productivité. Il fait aussi appel à des outils visuels pour aider les travailleurs et les ouvriers à faire leur travail. Deming, Schuhart et plus tard Toyota, Toyoda et Ono, quant à eux, voudront corriger les excès de l'organisation scientifique du travail en introduisant, entre autres choses, le management visuel. Dans la citation d'Ono, il prend la forme de Gemba Walks, l'observation des lieux où se déroule le travail. Revenons à notre Obeya Room. Selon le site iObeya, l'Obeya Room est censée être construite par l'équipe et pour l'équipe. C'est un lieu unique avec des tableaux blancs sur les murs enrichis de post-it manuscrits, d'autocollants et d'autres artefacts en papier agissant comme des éléments visuels simples pour la planification, la cartographie de la chaîne de valeur, le Kanban, la gestion des actions, la résolution de problèmes, les tableaux de bord, voire le moral de l'équipe et la planification des vacances. Bref, une sorte de balanced scorecard très élaboré. Cette pièce devient donc un centre de communication permettant des interactions et des décisions participatives rapides. Un lieu où les équipes peuvent partager des informations sur les activités de l'entreprise, améliorer en permanence l'efficacité et accroître l'intelligence collective. Le management visuel, tel que décrit par Sutherland, cherche à responsabiliser chaque membre d'une équipe en le rendant co-responsable de la performance, en lui montrant en quoi sa performance individuelle contribue à la performance de l'équipe. C'est son premier pas aussi vers l'auto-organisation. Donc, on peut dire que le management visuel transforme le rôle des managers et des dirigeants. Si Francis Bacon, mort en 1626, disait que « scientia potentia est », autrement dit, le savoir, c'est le pouvoir, il faut aussi savoir en reconnaître les limites. Ce qui nous amène à notre deuxième question. Pour commencer, une autre citation de Jeff Sutherland tirée du même vidéo TEDx. Après l'armée, l'Université du Colorado, je me retrouve à la banque. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il mène tous ses grands projets avec des centaines de développeurs et qu'il gère tous ses projets à l'aide d'un diagramme de Gantt, une technologie qui a été introduite dans l'armée américaine en 1910. Elle n'a pas très bien fonctionné pendant la Première Guerre mondiale et elle n'a pas non plus très bien fonctionné à l'époque parce que chaque élément du projet est assorti d'une date. Et si quelqu'un ne respecte pas cette date, tout le projet est retardé. Et lorsque le projet est retardé, les clients sont mécontents, les responsables sont en colère. Les responsables forçaient ces développeurs à travailler la nuit et les week-ends. Ils faisaient des marches de la mort. Cela me rappelle les galères romaines. Vous savez, les esclaves qui rament et qui font claquer le fouet. Fin de la citation. Taylor, Gantt, Bacon, tous industrieux et sagaces qu'ils furent, seraient peut-être un peu perdus en 2024. Nous disons souvent sur ce podcast qu'il est important d'adapter ces outils et ces méthodes à la situation à laquelle nous faisons face. Arnaud Tonley nous rappelle aux épisodes 62 et 103 que la pensée de Fayol et Taylor s'est imposée dans un environnement où la prime allait vers l'avantage concurrentiel et à la taille, et que même les mêmes méthodes produisent toujours les mêmes effets et que si celles-ci ne fonctionnent pas, il est inutile de persister dans cette voie. Danny Trudel, quant à elle, nous rappelle à l'épisode 116 que « What got you here won't get you there ». Tandis que David Autissier nous rappelle à l'épisode 148 que le management est forcément contingent. Bref, qu'il n'y a pas une seule et même méthode, outil, habileté, connaissance à mobiliser, mais bien un ensemble, et qu'on trouve ses compétences souvent dans un collectif plutôt que dans une seule et même personne. Mais que nous dit cette théorie de la contingence? Eh bien, elle nous ramène entre autres à John Woodward, Fred Fiedler, Henry Mintzberg, Michel Crozier et bien sûr Hersey et Blanchard. Que du bon, que du meilleur. Donc, avant de vous répéter que si vous êtes un marteau, vous voyez tout le monde comme des clous et accessoirement que vous avez assez peu d'intérêt ou d'affinité pour les vis, examinons ce que Woodward nous dit au sujet de la contingence. Woodward distingue deux types de contingence. La contingence technologique, qui est aussi chère à Mintzberg, on le verra un peu plus tard, et la contingence évolutive. Donc, la première observe que l'organisation se structure en fonction d'un ensemble de critères reliés à la manière de créer de la valeur. Autrement dit, plus la complexité technologique est élevée, plus l'étendue du contrôle par la direction, le ratio d'encadrement et le nombre de niveaux hiérarchiques augmentent. De la même manière, plus la complexité technologique est élevée, moins le ratio main-d'œuvre-production sur hors-production progresse, moins la part des rémunérations sur les coûts totaux progresse. Plus la complexité technologique croît, plus la séparation administration-production est claire. La communication écrite augmente, tout comme les procédures de contrôle. Et à partir d'un certain degré de complexité, la relation s'inverse. C'est donc dire que selon que la production soit du type projet, par exemple dans le bâtiment, en atelier, par exemple dans l'aéronautique, de masse, par exemple dans l'automobile ou l'électronique, ou continue, par exemple, la production d'énergie, le nombre de niveaux de management, l'importance accordée au contrôle et à la supervision, le niveau de compétence des ouvriers, la structure d'ensemble et les modes de prise de décision seront différents. La seconde contingence concerne l'évolution des entreprises industrielles. Elle décrit cette première phase où il existe une division entre le monde du travail des ouvriers et de la gestion réservée au patron. L'ouvrier est indépendant grâce à ses qualifications et cela crée une sorte d'équilibre de pouvoir. La deuxième phase, cette phase marque la remontée au sommet des préoccupations du rendement et d'efficience. La surpondération de ces critères favorise l'émergence d'une organisation où l'habileté du travail et la qualification deviennent de moins en moins essentielles au fonctionnement de la fabrication. Ce qui compte désormais, c'est le rendement et le contrôle sur la vitesse d'exécution du travail. Toutefois, le travail qualifié se déplace de la fabrication vers la maintenance, l'entretien, et vers les outils de production avec l'émergence de nouveaux métiers. C'est un peu ce dont nous discutions avec le professeur Blank à l'épisode 151 et que nous pouvons entrevoir avec l'ouverture du capital pour financer de nouveaux investissements ou une internationalisation rapide, par exemple. Troisième phase. Il y a un développement de l'automatisation, de processus continu à travers la robotisation ou des chaînes de montage, ou au contraire discontinu. Il y a accélération de la disparition des tâches manuelles vers les automates et les robots. Les ouvriers qualifiés deviennent ceux qui doivent installer et entretenir ces automates et ces robots. C'est à la fois ce que nous vivons avec la révolution numérique. Les ouvriers qualifiés sont ceux qui doivent installer et entretenir ceux-ci. Mintzberg, quant à lui, nous indique qu'un certain nombre de conditions ou de facteurs de contingence agissent sur l'organisation. En particulier, l'âge et la taille de celle-ci, son système technique, son environnement et ses relations de pouvoir. Donc, il n'y a pas que pour les projets où il faille adapter son approche managériale. En réalité, toute organisation, au fil de son évolution, doit, comme le disent les signataires du Manifeste Agile, réfléchir aux moyens de devenir plus efficace, puis régler et modifier son comportement en conséquence. Assez curieusement, il n'y a que peu de littérature concernant le management visuel et Schwaber et Sutherland ou Véronique Messager n'en parlent pas de manière très détaillée dans leurs ouvrages. Nous continuerons donc à chercher de bonnes références à vous proposer dans ce domaine et relirons l'excellent « Say it with presentations » de Gene Zelazny, devenu une série de livres. Gene Zelazny, né Jean-Claude Zelaznagora et rescapé de la Shoah, a longtemps été directeur des communications de McKinsey et il est décédé en 2023. Et oui, nous continuerons à creuser ces questions de contingence pour tenter d'y voir plus clair et d'en tirer des lignes directrices faciles à comprendre et à utiliser, quitte à tenter d'avoir Henry Mintzberg sur ce podcast. Mais à chaque problème, sa solution. Ou, pour citer encore une fois Taishi Ono, le plus gros problème est de ne pas avoir de problème. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à consulter les liens dans la description pour accéder aux notes de l'épisode et pour vous abonner à notre lettre hebdomadaire. Nous y partageons nos perspectives pour vous aider à développer vos compétences stratégiques et vous permettre de développer la croissance profitable de vos organisations. Sur ce, excellente semaine.